C'est Paix Hitler, ancien soldat des tranchées de la Grande Guerre, la déteste depuis toujours. Il va donc s'employer à la piétiner. Cela va se faire en plusieurs étapes. Premier coup de canif dans le contrat, la Rhénanie, région frontalière proche de la France et de la Belgique, est investie par des garnisons. On la remilitarise, contrairement aux engagements pris en 1919. La Société des Nations rouspète, les Occidentaux aussi, mais rien ne se passe. Hitler se lance dans une énorme politique de réindustrialisation de l'armement allemand. Chars, avions, canons. En quelques années, le bond en avant est énorme. La nouvelle puissance nazie est testée grandeur nature en Espagne, où une guerre civile éclate. Prenant le parti des nationalistes menés par Franco, Hitler bombarde la petite ville de Guernica le 26 avril 1937. La Légion Condor, allemande, fait plusieurs centaines de victimes parmi les civils espagnols. Chaque fois, les velléités guerrières de l'Allemagne ne sont pas prises au sérieux par les puissances de l'Ouest. Le Führer les mène en bateau, dégonfle diplomatiquement les polémiques. Ni la France, ni le Royaume-Uni, ni la Société des Nations ne vont prendre la moindre mesure contre l'Allemagne après Guernica. Est-ce cette faiblesse, ce manque de répondant qui conduit Hitler à agir plus encore? Se serait-il freiné si une coopération digne de ce nom au niveau international avait tout fait pour l'arrêter? Difficile à dire, évidemment. Mais le Führer sent qu'il a les mains libres pour aller plus loin et repousser les limites de l'acceptable. Avec son plan d'un grand Reich réunissant tous les peuples ayant l'allemand pour langue maternelle, il se lance à l'assaut de l'Autriche. Son pays natal est dans sa ligne de mire depuis longtemps. Lui qui a tenté d'obtenir l'aide de Mussolini à ce sujet dès ses premières années au pouvoir. Au début de l'année 1938, Hitler a les moyens d'agir concrètement. Grâce aux nazis autrichiens, il provoque un coup d'État durant lequel le chancelier démocratiquement élu est renversé. En mars 1938, l'Autriche est donc finalement rattachée à l'Allemagne. Hitler n'a pas eu besoin de Mussolini. Dorénavant, son armée est l'une des plus importantes du continent. Le Führer ne se prive pas pour faire appliquer la même politique qu'en Allemagne dans les territoires autrichiens nouvellement annexés. En premier chef, l'Autriche apprend à vivre au contact de l'antisémitisme institutionnalisé. Hitler en a fait une stratégie politique et sociétale. Pour entraîner sa population derrière lui, le Führer continue de stigmatiser les Juifs et les minorités. Les nazis développent un récit officiel mensonger. Si l'Allemagne a perdu la dernière guerre, c'est la faute des Juifs. L'inflation du début des années 20, c'est la faute des Juifs. La crise économique qui a fait suite au krach de 1929, idem. Tous les prétextes sont bons pour stigmatiser les Juifs et les intimider. Hitler a besoin du soutien du peuple du Reich. Ses objectifs sont loin d'être achevés. L'Anschluss n'est qu'un premier pas. Pour intégrer sous sa responsabilité tous les peuples parlant allemand, le Führer va devoir s'emparer des Sudètes, une terre tchécoslovaque. Mais la Tchécoslovaquie, pays né du traité de Versailles, est protégée par la France et l'Angleterre. Cette fois, l'odeur de la poudre est de retour en Europe. Aujourd'hui dans les notes. 1er octobre 1938, Budapest. Béla Bartók est épuisé. En lisant les journaux ce matin, le quinquagénaire a la mine des mauvais jours. La presse nationale titre en gras « La paix est sauvée ». Oui, mais quelle paix? Le compositeur se le demande bien. Hier, à Munich, les SS, dans leur grande tenue noire terrifiante, ont accueilli les délégations des vainqueurs de 14-18. La France de Daladier et l'Angleterre de Chamberlain se sont retrouvés face à Mussolini et Hitler. Le loup du Reich s'est transformé en agneau, puisque ce moment diplomatique doit lui permettre d'obtenir ce qu'il veut. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa stratégie a été la bonne. Les Français et les Anglais, ex-Ang, ne pensent qu'à sauver les apparences, à maintenir une paix fragile sur le continent. Pour cela, ils ont tout donné à Hitler. Le compositeur est effaré de lire le compte-rendu rapporté par l'un des journalistes du quotidien qu'il a en main. La province des Sudètes, pourtant territoire tchécoslovaque, est cédée purement et simplement aux nazis. En échange de quoi ? Une promesse solennelle du Führer de ne pas revendiquer d'autres territoires dans sa quête de la Grande Allemagne. En lisant les dernières lignes du papier, Béla Bartok ne peut s'empêcher d'éclater de rire. Une promesse. Mais que vaut la parole d'Hitler ? Rien, bien évidemment. Voilà ce que pense le compositeur. De plus en plus, la star de la musique classique contemporaine se sent esseulée. Il est face à un dilemme. Rester ou partir ? Mais comment pourrait-il s'exiler à presque 55 ans alors que sa mère, vieillissante et malade, est toujours en vie ? Pourtant, il le faudrait. Son bureau est bien vide. Le papier à musique n'est guère utilisé. Bientôt, tout va changer pour lui et pour l'Europe. Sa mère va mourir et Bartok n'aura alors plus aucune attache. Il lui faudra partir. Pour faire son deuil, il dédiera à cette femme tant aimée son 6e quatuor à cordes, l'un de ses tout derniers succès. La conférence de Munich de 1938 est une vaste blague. En tentant de sauver la paix, l'Angleterre et la France, en cédant tout à l'Allemagne, donne à Hitler un blanc-seing. En mars 1939, moins de 6 mois après les illusions munichoises des puissances européennes, le reste de la Tchécoslovaquie est envahi par l'armée allemande. Pour quelle réaction internationale ? Aucune. La situation est de plus en plus inquiétante. Le Reich s'étend et sa puissance industrielle augmente encore avec l'invasion de la Tchécoslovaquie. Comment parler encore de paix ? Alors que tout indique que l'Allemagne prépare la guerre. Bien mystère. Quoi qu'il en soit, l'étau va se resserrer encore pour les puissances occidentales. L'URSS de Staline est liée à la France par un traité qui ne va pas tarder à devenir caduque. À l'été 1939, à la surprise générale, Hitler, pourtant l'ennemi numéro 1 du communisme, se rapproche des soviétiques. Ribbentrop, son ministre des Affaires étrangères, signe à Moscou un traité d'alliance entre les deux régimes autocratiques. Le 23 août 1939, il entre en vigueur. Le choc est total partout, même au sein des deux camps. Oh, c'est bien simple. De part et d'autre, personne ne comprend la manœuvre. Et pourtant, Hitler et Staline ont chacun leurs raisons. Elles ne vont pas tarder à être dévoilées au grand jour. C'est l'emballement. Certaines nations se réveillent. Il ne fait plus aucun doute que le spectre de la guerre est de retour. Les États-Unis vont même jusqu'à faire rapatrier leurs ressortissants. Mais que se passe-t-il ? L'embrasement est-il devenu inévitable ? Hitler, lui, continue d'avancer ses pions. Voilà qu'il vise dorénavant la Pologne, plus particulièrement ce qu'on appelle le couloir de Danzig, né du traité de Versailles pour permettre aux Polonais d'obtenir un accès maritime. Cela au détriment de l'Allemagne, qui s'est retrouvée coupée en deux. 1er septembre 1939, Danzig est bombardé. Les nazis viennent d'envahir le territoire polonais. L'affront est immense. La ligne rouge est franchie. Mais le Führer se persuade d'une chose. Après sa victoire diplomatique à Munich et son invasion de la Tchécoslovaquie, aucun pays occidental ne va bouger le petit doigt. Pour l'une des toutes premières fois, il se trompe. 3 septembre, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. La Deuxième Guerre mondiale vient de débuter. Béla Bartok va s'exiler aux États-Unis après la mort de sa mère. Dévasté, il doit faire face à de nombreux problèmes. Sa popularité va décliner au fil des ans. En 1942, il déclare une leucémie. On lui cache. Le compositeur, l'un des meilleurs de son temps, ne pourra jamais remonter la pente. brisé par le flot ininterrompu des épreuves vécues durant l'entre-deux-guerres et son exil forcé, Bartok s'éteint à New York en septembre 1945. Il aura eu le temps d'assister à la victoire des Alliés sur les forces de l'Axe et à la libération de son pays. Les nouveaux gouvernants l'élisent symboliquement comme député quelque temps avant sa mort. Béla Bartok reçoit le prix d'honneur de la paix à titre posthume. Un hommage adéquat, cela va sans dire, pour un homme de génie qui aura su conserver droiture et intransigeance face à l'horreur. À n'en pas douter, le monde aurait eu besoin de plus de Béla Bartok durant les années 30. La Deuxième Guerre mondiale fera 50 millions de morts, provoquant un océan de souffrance absolument inimaginable. L'humanité, une nouvelle fois, repousse les limites de la cruauté. Le brasier, plus encore que par le passé, va devenir tout à fait incontrôlable et laisser partout des traces on ne peut plus durables.